tue pas, me fortifie », écrivait en 1888 le philosophe allemand Nietzsche. D'après la récente découverte d'un groupe de chercheurs montréalais, cette maxime pourrait bien s'appliquer aux végétaux. Leur analyse révèle que presque la moitié des gènes exprimés par des sols pourpres est en réalité originaire d'autres organismes. Des parasites comme des bactéries, des champignons ou certains insectes, par exemple. Mais plus surprenant encore, si les arbres ont poussé sur un milieu pollué, ce pourcentage de gènes étrangers va diminuer.
De mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter les yeux.
On a rencontré Michel Labrecque, professeur associé à l'Université de Montréal et chercheur à l'Institut de recherche en biologie végétale qui se situe au Jardin botanique. Il nous a accueillis dans son laboratoire et on l'a interrogé sur son dernier article, le stress dans la culture des arbres. Il s'avère que ce stress améliore leur résistance aux agresseurs comme les insectes. On l'écoute nous résumer cette étude.
Un phénomène assez intéressant qu'on a constaté, c'est qu'on a fait pousser des plantes parce qu'on s'intéresse à la phytorémédiation, donc à la possibilité que les plantes ont de décontaminer des sols. Donc on a fait pousser des plantes dans des milieux fortement contaminés par des hydrocarbures de différents types. Et on a comparé la croissance de nos végétaux, on travaillait avec diverses variétés de saules. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas tellement de différence dans la croissance, la productivité des plantes. Puis on regarde ça par des approches génomiques pour voir un peu quels sont les transcrits, donc qu'est-ce qui s'exprime, quels sont les gènes qui s'expriment quand les plantes sont soumises à des stress environnementaux de cette nature-là, le stress étant la présence de contaminants dans le sol. Il y a des choses qui s'expriment différemment, ça c'est intéressant, on les voit, les plantes contaminées ont des symptômes que les plantes qui poussent dans le substrat non contaminé n'ont pas. Mais quand on regardait dans les transcrits, justement, on trouvait de l'ARN d'araignée rouge dans les plantes qui étaient dans notre contrôle. Puis dans les plantes dans le non-contrôle, on n'en trouve pas. Transcrit, on veut de l'ARN qui viendrait des araignées rouges. Les araignées rouges étant des petits ravageurs qui sont très problématiques pour les plantes.
Alors, comme vient de le dire M. Labrecque, on retrouve dans les arbres qui ont poussé sur un sol dit normal, des gènes étrangers d'araignées rouges, tandis que dans des arbres qui ont poussé sur un sol contaminé, on ne retrouve pas ce gène étranger, et que ça soit d'ailleurs en serre ou en champ.
Ça nous a fait dire que passe quelque chose dans la plante qui peut-être induirait un mécanisme de défense, que les plantes réagiraient à la présence de contaminants dans le sol, et ceci rendrait la plante moins attrayante ou attirante pour les araignées rouges qui sont ces ravageurs problématiques.
Est-ce que les sols pollués ne feraient pas tout simplement fuir les organismes parasitaires comme les bactéries, les champignons ou cette petite araignée rouge?
Puis l'autre hypothèse, c'était peut-être que simplement le milieu pollué favorisait ce genre de choses-là, donc peut-être parce que ça sent mauvais dans les peaux et dans le sol, mais plus on recherche et plus on trouve des arguments pour dire que non, c'est pas ça, c'est vraiment dans la plante qu'il se passe quelque chose. Et ça nous amène à toutes sortes de réflexions, à savoir, est-ce que des plantes qui pousseraient dans des milieux stressants, entre autres par la présence de contaminants, pourraient être plus résistantes à certains ravageurs? Si c'est le cas, on peut tout de suite voir des possibilités multiples d'utiliser cette finalité-là pour des applications plus larges, de faire pousser des plantes dans des milieux contaminés, puis d'avoir des plantes qui soient moins affectées par les insectes et donc moins de problèmes d'utilisation de pesticides pour contrer les insectes. Mais on en est encore loin. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est d'avoir pu constater ça. Et à notre connaissance, c'était la première fois qu'une telle chose était rapportée.
Donc on a dit qu'il y a une différence de gènes, alors pour être exact, d'ARN. Donc l'ARN, c'est l'étape entre les gènes et les protéines. Damien a posé la question de savoir si c'était un gène étranger à l'arbre.
Non, il est dans son ADN, donc dans son génome, mais tous les gènes ne s'expriment pas toujours, et selon les conditions du milieu, un stress qui peut être un manque d'eau, qui peut être une maladie, qui peut être un insecte, certains gènes vont plus ou moins s'exprimer.
Nous avons entendu Michel Labrecque. Écoutons maintenant Emmanuel Gonzalez, premier auteur de cette étude, chercheur associé à l'Institut de recherche en biologie végétale et spécialiste de bioinformatique.
Un stress, c'est n'importe quel environnement qui va générer une réaction, hein, comme un peu chez les humains, on sait ce que c'est le stress. Chez les plantes, nous, on a commencé notre recherche en dépolluant des milieux. Et En fait, si on regarde bien, il y a près de 30 000, quelque chose comme 30 000 sites pollués au Canada.
Cette analyse permet surtout de comprendre mieux comment les plantes réagissent à un stress, n'importe quel stress, et dans ce cas-ci, la pollution.
Il y a beaucoup d'auteurs dans cette étude, donc Michel Labrec nous en dit plus sur son rôle à lui en tant que phytoremédiateur, en tant que spécialiste de la physiologie des plantes.
C'est plus une personne comme moi qui est capable d'expliquer davantage ce que, d'un point de vue biologique, se passe.
Emmanuel Gonzalez complète la réponse de Michel Labrec.
Alors, il nous prend une image pour expliquer ce qu'il a fait au quotidien pour cette étude.
C'est un peu comme, si tu veux, j'étais en hélicoptère, je prenais une photo d'une ville en bas et je regarde à plusieurs moments les voitures, les gens, les animaux, et j'essaie d'analyser tout ça. Et si j'ai assez de photos, ben, je vais pouvoir commencer à créer une histoire. Et mon rôle, c'est de mettre le plus de résolution dans ces photos-là. Donc quand on reçoit les photos, là, c'est n'importe quoi. Mon rôle, c'est d'assembler tout ça, histoire que ça donne une image assez intelligible. Une fois qu'on a cette image-là, je la passe à mon collègue Nicolas, qui, lui, va commencer à analyser, hein, c'est le rôle d'un généticien, à analyser quel est cet individu, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est important dans l'image, est-ce que c'est juste quelqu'un qui ne fait que passer, est-ce qu'il y a juste des humains là-dedans dans cette image, etc., etc. Donc on a une ville extrêmement complexe. L'erreur, ça serait de regarder juste certains individus. Nous, on essaie de regarder, et c'est un peu la nouveauté, on essaie de regarder l'ensemble. Et on voit que dans l'ensemble des individus, il y a une certaine harmonie. Et c'est comme ça qu'on a vu qu'il n'y avait pas dans la plante que de la plante, il y avait des organismes étrangers.
Il nous apprend qu'il y a 600 000 transcrits en tout qu'ils ont observés et 20 000 changent de comportement. Et c'est ça qui les a lancés sur la piste de pourquoi cela change de comportement, lesquels sont-ils et dans quelles conditions.
De 600 000 transcrits, qu'on réduit à 20 000 quand on observe juste ceux qui changent de comportement et quand on se trouve dans le milieu pollué. C'est un peu comme si il y a un événement important dans une ville, hein, par exemple des Jeux Olympiques ou quelque chose comme ça. On observe quels sont les individus dans cette ville qui vont changer leur comportement par rapport à tous les jours. Et en analysant ça, on sait exactement quelle est la réponse de la ville par rapport à un événement comme les Jeux Olympiques. Et pour nous, ce serait quelle est la réponse de l'ensemble des individus, de l'habitat qu'il y a dans l'arbre, hein, les champignons, les bactéries, les insectes, tout ça. Et l'arbre, forcément, quelle est cette réponse-là par rapport à la pollution? Et en regardant ça, ça nous paraissait quelque chose de logique, de regarder pas seulement un arbre, mais de regarder l'habitat. C'est beaucoup de travail, mais je pense que ça nous a permis d'expliquer quelque chose qui est fondamental. Ce rôle-là très complexe et à la fois très logique, hein, entre l'arbre qui se défend contre un sol et en même temps se défend contre un insecte.
Cette étude est finalement une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent la phytoremédiation pour dépolluer les sols.
Et là, on va sortir bientôt un article sur carrément une forêt, hein, c'est 60 individus d'arbres. Encore une fois, une façon écologique de voir les choses, cette recherche sert énormément à savoir quel type d'arbres utiliser dans des sols pollués.
Grâce à cette nouvelle méthode d'analyse, Emmanuel Gonzalez voudrait maintenant étudier un plus grand nombre d'arbres. Elle pourrait permettre à l'avenir de mieux sélectionner les arbres utilisés en dépollution des sols.
En conclusion de ce reportage, on vous laisse avec les dires de Michel Labrec sur les suites de cette étude.
Notre travail est toujours de poursuivre nos études et notre recherche pour aller plus loin dans l'avancement de la connaissance. Et c'est sûr qu'il y aura des suites directement sur cette problématique-là, peut-être même aussi, parce que ça, c'est assez intéressant. Mais c'est sûr qu'on va continuer à travailler sur les aspects de transcriptomique et de génomique, mettons, des plantes qui sont soumises ou utilisées en phytorémédiation. Ça se poursuit. Et ce projet-là nous donne des indices pour aller un peu plus loin dans certaines pistes de compréhension des mécanismes des plantes dans des situations de stress comme ceux-là.
Près de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter les yeux.
Ce reportage a été réalisé par Damien Grabton et Karine Mona sur la radio choc.ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal, dans l'émission L'œuf ou la poule. Ce segment fait partie d'une série radiophonique produite dans le cadre de l'Année internationale des sols. Il a bénéficié du soutien de l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui célèbre son 70e anniversaire en 2015.